Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon.
Bonjour et bienvenue les papillons, je vais vous raconter plein d'histoires encore aujourd'hui, comme celle de la naissance d'un personnage génial qui a bercé votre enfance, le petit Nicolas. Et tout de suite, vous avez trouvé de vieilles photos de mariage dans un grenier? Bonne nouvelle, vous allez apprendre à les décrypter. Bonjour Marie-Odile Merniac.
Bonjour Sidonie.
Quel bonheur de vous retrouver dans Minute Papillon. Vous êtes historienne, généalogiste et vous allez nous aider à trouver des informations à partir de photos ou d'objets de mariage de nos ancêtres. C'est génial quand même hein, comme matière. D'ailleurs, si on a envie de faire un peu de généalogie, qui est l'une des grandes passions des Français, avec les photos de mariage de notre famille, quel est le premier réflexe à avoir ?
Déjà les rassembler, les retrouver, c'est vraiment le plus émouvant, c'est vraiment le plus émouvant les photos de mariage. On a une foule de personnages et on n'arrive pas toujours à mettre un nom sur les visages que l'on aperçoit si les photos sont un peu anciennes. Ouais. Donc la première chose à faire, c'est déjà de les retourner pour voir si quelqu'un de la famille a eu la bonne idée d'écrire les noms des mariés et les noms des invités au dos.
Oui, parce que parfois même les mariés, on ne sait pas qui sont ces mariés. Si quand ce sont des vraiment très anciennes photos et qu'on a perdu le fil de notre histoire.
Oui. Dans les greniers, on peut trouver des photos qui datent des années 1900, qui datent d'avant 1914. Et là, il est quand même difficile maintenant de trouver quelqu'un qui se souvienne de ces visages-là.
S'il n'y a rien de noté à l'arrière de cette photo de mariage que l'on a trouvée de nos ancêtres, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, si on a déjà commencé une généalogie, on a un arbre, on a des noms, on a des dates. Si la photo est dans notre grenier, on sait qu'il s'agit d'une photo qui où des membres de la famille sont présents. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de dater cette photo pour pouvoir éliminer par déduction, se dire ça ne peut pas être le mariage d'un tel ni d'un tel. C'était trop tôt, c'était trop tard. Par approximation, essayer de retrouver la date de la photo, du mariage, et donc pouvoir déterminer lequel est le bon.
Et ça, on va sur les réseaux sociaux, c'est ça ?
Alors, on peut aller sur les réseaux sociaux parce que d'autres familles peuvent avoir la même photo, elles étaient très partagées, tous les cousins en avaient, et peuvent, eux, avoir noté qui était qui au dos de la photo.
Il faut aussi faire attention aux ressemblances. Pourquoi ? Parce qu'il y a des visages qui sont, notamment les hommes.
Ah, c'est saisissant, on n'a plus du tout l'habitude de ces visages d'avant 14. Et je me souviens de mon premier étonnement. J'ai publié, ça fait des années, une photo que m'avait laissée, dans un des premiers livres que j'avais rédigé, une photo que m'avait donnée ma grand-mère, qui était la photo de ses parents avec elle, toute petite fille. Elle est fille unique. C'est parfaitement, et c'était ses parents, voilà, aucun doute là-dessus. Cette photo paraît dans un livre, et j'ai reçu 6 lettres de gens qui m'ont dit « Mais où avez-vous trouvé la photo de mon grand-père ?»
Incroyable.
Donc en fait, les moustachus d'avant 14, ils avaient tous des moustaches qui se ressemblaient. Un moustachu blond ou brun d'avant 14 ressemble terriblement à un autre moustachu blond ou brun. Et donc il faut se réhabituer au visage de cette époque-là et ne pas faire d'impair non plus.
Marie-Odile Merniac, vous publiez « Photos et objets des mariages d'hier », les trouver, les identifier, les comprendre. C'est aux éditions Archives et Culture. À partir de quand est-ce qu'on a commencé à prendre comme ça des photos de mariage ?
Alors à partir du 19e siècle,
dès le début de l'histoire de la photo finalement.
Oui, tout de suite, mais les photos étaient chères, donc ça n'a commencé à se répandre dans les campagnes par exemple qu'à la toute fin du 19e siècle. Donc aux alentours des années 1900, voilà, si la famille a été un petit peu conservatrice, on peut retrouver dans toutes les familles des photos qui sont des photos de groupe. On prenait rarement encore les mariés tout seuls.
Et parce qu'il fallait faire une photo, donc il fallait représenter tout le monde.
C'était cher et tout le monde se rassemblait et on prenait une photo avec ces énormes groupes géants.
Avec le placement qui était toujours un peu similaire ou pas ?
Oui, toujours les parents du marié à côté du marié, les parents de la mariée à côté de la mariée. Et derrière, on plaçait les jeunes gens. Il n'y avait pas des petits enfants d'honneur comme on a aujourd'hui dans les mariages. C'était des jeunes filles et des jeunes gens d'honneur, on les appelait ainsi, qui étaient des amis des mariés et qu'on avait essayé d'assembler pour que ça donne des futurs mariages ensuite.
Oh, c'est drôle. Les photos anciennes, quand on les regarde, il y en a quelques-unes dans ma famille de ces photos de mariage. Parfois, elles semblent un peu figées. On dirait que les visages sont un peu crispés.
Personne ne sourit. Oui, c'est ouais, frappant quand on commence à regarder ces photos anciennes. C'est cette absence de sourire qui frappe. En fait, le temps de pause était quand même assez long. Donc, si on souriait, on risquait d'avoir un visage un petit peu flou parce qu'il est difficile de maintenir un sourire à l'identique pendant 10-20 secondes.
Marie-Odile Merniak, il y a aussi les robes de mariée qui sont intéressantes à observer sur ces photos de mariage de nos ancêtres. Elles ont beaucoup évolué au fil du temps. À la fin du 19e, par exemple, quelle était la mode ?
Ah, ça permet aussi de dater justement les photos. À la fin du 19e, on avait alors soit des robes de toutes les couleurs, c'est inattendu.
Ah, le blanc n'était pas de mise depuis le début de l'histoire du mariage.
Non, pas du tout. Le blanc, c'était très cher parce que c'était très salissant. On ne pourrait pas la réutiliser, cette robe. Donc, c'était vraiment les classes les plus aisées qui se mariaient en blanc. Les classes populaires, elles... il faut se rappeler que le prêt-à-porter n'existait pas. Le textile coûtait très cher et on se transmettait les robes par héritage. On en faisait, on l'inscrivait dans un testament, par exemple, une robe.
Ah bon ?
Alors,
ah ouais.
Parce que ça coûtait le prix d'un lit, par exemple, ouais, une belle robe.
Ceci dit, aujourd'hui, ça coûte aussi le prix d'un lit. Hein.
Oui, oui. Mais voilà.
Donc, une belle robe.
En tout cas, la belle robe se transmettait de mère en fille et une fille pouvait se marier dans la robe de mariée de sa mère, voire de sa grand-mère, qui était la plus jolie robe qu'elle puisse avoir et qui était de toutes les couleurs. Parfois même noire après 1870 parce que la défaite contre les Prussiens avait fait qu'on se mariait en noir pour porter un petit peu le deuil de la défaite.
Donc à la fin du 19e siècle, pour reprendre ma question, il y a de toutes,
de toutes les couleurs.
Et de toutes les tailles, de toutes les formes ?
De toutes les formes, moins. C'était... comment dire, on était enveloppé un petit peu comme dans un cocon. En général, la mariée avait un col qui montait jusqu'au menton, donc un grand col haut. Ça tombait ensuite à ses pieds. Et s'il y avait un voile, ce qui n'était pas toujours le cas, le voile était dans un textile extrêmement épais, un petit peu comme un drap. Comme, et donc, on avait l'impression d'une mariée qui était complètement enveloppée dans un cocon.
C'est là un peu l'image du futur, peut-être, voilà. La femme dans le cocon de son mariage. Et d'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, les robes sont un peu différentes. Il y a une taille d'ourlet qui va varier.
Alors déjà, les robes courtes apparaissent.
Ah.
Voilà. Après 14...
On montre la jambe.
On montre la jambe, alors pas très haut.
Oui.
La robe descend jusqu'en bas du mollet. On montre le cou. Avec un col...
On libère la femme un peu. Hein.
En col huron. Mmh. Et on la libère avec le corset qui disparaît aussi.
On peut respirer.
Plus de corset. C'est-à-dire les tailles de guêpes, quand on les voit sur des photos de mariés, on sait d'avance que la photo date d'avant 14. Et là, on a des tailles dans les années 20 qui sont des robes complètement fluides, toutes droites, sans tailles marquées. C'est merveilleux quand on est très mince. Ça fait très sac de pommes de terre si on est un petit peu dodu. Enfin, voilà.
Mais
de temps en temps,
nos ventres peuvent sortir et on peut respirer et nos poumons peuvent faire leur boulot.
On peut respirer. Mais voilà, c'est très daté.
La mariée porte-t-elle une coiffe, un voile ou un chapeau? A-t-elle de la dentelle sur sa robe? Toutes ces informations peuvent être des indices très précieux pour faire parler les photos de mariage de vos ancêtres.
Minute Papillon sur France Bleu jusqu'à 15h.
Je déclare la saison des mariages ouverte. Et une chose est sûre, c'est que vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos de cet événement et les généalogistes du futur vous diront merci parce qu'aujourd'hui, pour décrypter les photos de nos ancêtres, et ben c'est parfois un peu coton parce qu'on en a peu, c'est vrai. Déjà, il faut les retrouver, comme vous disiez, Marie-Odile Merniak, vous êtes historienne et généalogiste. Il faut les retrouver, il faut les décrypter, il faut qu'il y ait des infos dessus. Sinon, on mène l'enquête grâce à vos livres, notamment Marie-Odile. Les photos de mariage des années 70, elles doivent être assez faciles à dater, non ?
Oui, on a parfois effectivement des petits boléros blancs en laine de mouton. On a des choses qui font très écolo.
Il y a de la pâte d'œuf pour le monsieur.
Oui aussi. Donc on les date bien.
Elles sont
les femmes, ça reste court. C'est très irrégulier. Ça peut être très classique ou effectivement très écolo déjà.
Oui.
Très très varié. Bon.
Oui, il y a
les
pas de règles.
70,
en fait.
Non, pas de règles.
C'est vraiment l'ère de la liberté.
Complètement.
Ouais. Les chapeaux et les coiffes donnent aussi des indices sur ces photos de mariage. Pour quelle raison, Marie-Odile ?
Alors, parce que là aussi, il y a des modes. On a par exemple, avant 14, soit cette espèce de grand voile opaque, soit aucun voile, mais à ce moment-là, des petites fleurs artificielles. C'était la fleur d'oranger qui était à la mode.
Dans les cheveux ?
Dans les cheveux.
Oh, trop beau.
Dans les cheveux, à la taille, en broche. Mmh. On avait ça voilà, pour symboliser un petit peu le mariage. le voile apparaît plutôt après-guerre, dans les années 30, mais on a dans les années 20 quelque chose qui est très très joli, c'est-à-dire qu'on a vraiment des petites couronnes très fines autour du front. Voilà, ça fait un petit peu princesse médiévale, je trouve ça très joli. Le voile apparaît ensuite et descend, à la fin des années 20, descend complètement jusqu'aux sourcils. C'est très curieux.
Ah oui, très étonnant.
On a ce voile qui part des yeux quasiment,
ouais.
Et puis qui s'en va derrière jusqu'au mollet environ. Et les voiles traînent qui vont sur le sol, sur plusieurs mètres derrière la mariée, là ça date des années 50. C'est vraiment quelque chose qui a été popularisé avec tous les mariages princiers dont on a commencé à voir des photos, des séquences. Elisabeth II, par exemple, quand elle s'est mariée, ça a été un des premiers mariages télévisés.
Souvenez-vous, en 2011, le monde entier découvrait la robe de mariée de la princesse Kate Middleton avec de la dentelle made in France.
C'était un des secrets les mieux gardés du Royaume-Uni. Hier enfin, le public et des millions de téléspectateurs ont découvert la robe de la mariée. De l'autre côté de la Manche, à Caudry, dans le nord de la France, ses employés n'en croient pas leurs yeux. La dentelle de la robe, ce sont eux qui l'ont confectionnée.
C'était des bons qu'ont fait tous les salariés de Sophie Alette tout à l'heure, en découvrant les images, comme tout le monde, devant son petit écran, et en voyant effectivement notre dentelle figurant très clairement sur le col de cette chère Kate Middleton. Donc effectivement, on avait participé à quelques rushs ces dernières semaines sans jamais savoir pour qui réellement il s'agissait, avec Alexander McQueen.
Reportage BFM qui date de 2011, Kate Middleton qui porte quand même la dentelle de Caudry pour son mariage. C'est une petite fierté nationale. Hein. La dentelle, c'est aussi un moyen de dater les robes et de dater les photos de nos ancêtres qui se mariaient.
Alors, moins on voit la dentelle sur le bustier, bien sûr. On voit surtout la dentelle qui apparaît dans le voile, puisqu'au début, ils étaient effectivement, au 19e, des voiles très épais. Mmh. Ensuite, on a ces voiles de tulle. C'est quand même difficile de l'utiliser pour dater, puisque vraiment toutes les mariées l'utilisaient sans qu'on puisse vraiment se dire c'est une dentelle de tel endroit, ou alors peut-être faudrait-il un spécialiste comme celui qu'on vient d'entendre.
Vous publiez, Marie-Odile Merniac, photos et objets des mariages d'hier chez Archives et Culture, et je découvre qu'on peut aussi faire la généalogie avec les objets de mariage, comme le trousseau. Vous nous rappelez ce que c'est, ce bon vieux trousseau qui a bien disparu?
Oui, la mariée se devait d'apporter un trousseau, c'est-à-dire des objets qui allaient lui servir dans la vie de tous les jours. Donc, en général, des draps brodés à son nom. Mmh. Ça pouvait être aussi des armoires brodées parfois seulement à son nom à elle. Enfin, brodées, pardon. Gravées à son nom. Des assiettes, de la vaisselle, quantité de choses du quotidien, mais qui lui appartenaient en propre et qu'elle amenait lors de son mariage.
Et ces pièces-là, on peut les trouver aussi dans des greniers ou même dans des vides-greniers, des brocantes.
Oui, alors dans les vides-greniers, c'est un petit peu dommage. Quand on voit, par exemple, des assiettes ou des plats avec des initiales, dans un vide-grenier, on ne sait plus qui l'a obtenu au départ. Si c'est dans son propre grenier, en revanche, qu'on trouve un plat avec deux initiales, on peut essayer de deviner quel est le grand-père qui avait laissé ce plat à cet endroit-là.
À quelle période de l'histoire ce trousseau a-t-il été abandonné ?
Oh, pendant l'entre-deux-guerres, ça a commencé un petit peu à être en désuétude, et puis après-guerre, ça a disparu.
On peut aussi découvrir des bagues de mariage, comme la bague de foi. C'était quoi ça ?
Ah, c'était une bague qu'on offrait autrefois et qui était en verre, qu'on offrait à sa belle, dans le sud essentiellement.
Les alliances aussi peuvent donner des informations. On a de tout temps porté des alliances, hommes, femmes ?
Oui, quand même, depuis quelques siècles, effectivement, on en porte. Il paraît que ça se pratiquait déjà sous l'Antiquité. Alors, elles étaient souvent en métal autrefois, ouais, parce qu'on n'était pas forcément très riches.
Bien sûr.
19e, on commence à les voir apparaître systématiquement en or et gravées. Alors, souvent, les personnes sont inhumées avec leurs alliances, donc elles sont rarement gardées dans la famille. Mais j'ai eu la surprise d'en trouver chez une tante des petites alliances toutes fines. Apparemment, rien d'écrit à l'intérieur.
Apparemment.
Et j'ai une fille qui avait des bons yeux et des ongles très longs, qui m'a dit, mais il me semble qu'il y a une petite fente. Elle a introduit un ongle et les alliances, pourtant toutes fines, s'ouvraient et dévoilaient le nom des mariés. la date du mariage qui datait de 1806.
Magnifique.
Et on a pu retrouver après sur Internet, en cherchant les mariages de la région avec les noms, on a pu retrouver qui étaient les mariés et refaire le lien de parenté jusqu'à nous.
Incroyable, c'était plutôt une famille aisée. Pour avoir des bagues comme ça, une famille de
commerçants rouennais. C'était des petites bagues toutes fines en or, mais pas très épaisses. Donc, ils n'avaient pas forcément une fortune gigantesque.
Incroyable cette histoire, Marie-Odile Merniac. Il y a un cadeau aussi qui était très à la mode autrefois, cadeau de mariage, ce sont les globes.
Oui.
Vous vous rappelez ce que c'était ?
Oui, c'était souvent les jeunes gens invités au mariage ou alors la couturière de la mariée qui offrait ça au couple. Et c'est un espèce de grand globe sous verre, ça fait quand même 30-40 cm de haut, sous lequel la mariée mettait après la noce son diadème. Donc c'était en général avant 14, c'était à la mode de 1870 à 1914. Elle mettait son diadème, elle mettait ses boucles d'oreilles, tous les petits accessoires de la robe de mariée.
Et ça trônait au milieu du salon ?
Alors, au milieu du salon ou dans la chambre du couple, sur un meuble, c'était sur du velours rouge, avec des petits clinquants rajoutés partout. On rajoutait des petites colombes dorées pour symboliser la paix dans le ménage. On rajoutait des petits miroirs. On rajoutait des feuilles de chêne pour la longévité, des feuilles de je ne sais plus quelle, de vigne pour la fertilité, etc., etc. Et donc, ça donnait quelque chose qui était complètement clinquant, complètement kitsch, mais vraiment très joli.
Oui, très symbolique aussi. Oui. Alors, après avoir inspecté les greniers de tous les membres de votre famille, je vous propose de vous donner rendez-vous aux archives nationales ou départementales. Vous pouvez y dénicher encore des trésors et pourquoi pas quelques secrets de famille.
Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
Vous découvrez l'histoire de votre famille à travers un angle passionnant. Ce sont ces photos de mariage et ces objets de mariage que vous pouvez découvrir dans vos greniers ou dans quelques caves ou au fond de quelques tiroirs ou grandes armoires. Marie-Odile Merniac, vous êtes historienne et généalogiste. Quels sont les documents aussi qu'on peut consulter aux archives pour en apprendre plus sur notre famille et son histoire ?
Or, aux archives départementales, on va retrouver bien sûr tout l'état civil, jusqu'à François Ier, puisque c'est lui qui a créé l'équivalent de l'état civil. Et puis on a les documents notariés, et dans les documents notariés, justement, on peut retrouver les contrats de mariage. Aujourd'hui, c'est très rare, c'est 2 couples sur 10 maximum qui établissent un contrat de mariage. Autrefois, c'était 8 sur 10.
Ah oui. Donc, et on pouvait trouver quel genre d'infos dans un contrat de mariage ?
Alors bien sûr, tout ce qui se passait en cas de disparition, qui transmettait quoi à qui,
la répartition aussi des biens.
La répartition des biens.
En cas de divorce et de décès.
Alors les divorces n'existent que depuis 1884, c'est récent.
Oui, vous avez raison.
Mais non, on évoquait aussi beaucoup, puisque les parents étaient ceux qui apportaient souvent une dot, qui donnaient à leur fille une dot. Il y avait les mécanismes de prise en charge des parents dans leur grand âge qui étaient prévus dans le mariage des enfants, dans le contrat de mariage des enfants. Et puis même si les deux époux n'avaient rien, ils détaillaient par le menu effectivement quelle serait la répartition des biens si jamais ils en gagnaient beaucoup.
Il y avait la dot aussi.
Il y avait la dot qui était expliquée, qui était détaillée.
Donc c'est ce que les parents de la jeune mariée donnaient pour la famille.
Voilà, donnaient au couple. Donc on détaillait, c'était pas forcément en numéraire, ça pouvait être du bétail, ça pouvait être des meubles, ça pouvait être des ruches à miel. Et puis le marié aussi apportait souvent aussi une dot, on l'oublie.
Ah oui, ça je l'ignorais complètement.
Mais c'était lui qui l'apportait en propre, c'était souvent ses outils professionnels.
C'était son apport.
Ou son entreprise, son apport. Il essayait d'apporter ou alors il offrait des bijoux à l'épouse. Et c'était un apport normalement à peu près équivalent à ce que la jeune fille apportait en dot.
Et ça a perduré jusqu'à 1965. Il y a un autre document assez savoureux que l'on peut trouver aussi aux archives nationales ou départementales. Ce sont les dispenses. Qu'est-ce que c'est ?
Alors les dispenses de mariage, ce sont des actes qu'on a besoin d'obtenir si l'on veut se marier dans des cas en théorie interdits. C'est-à-dire épouser un cousin germain, c'est possible, mais il faut demander une dispense au Conseil d'État.
Qui peut être du genre « je l'aime, je l'aime, je l'aime ».
Voilà, ça peut être ça, mais il faut justifier, il faut expliquer. Ou ça peut être au 19e, nous sommes tous les deux tellement pauvres, on ne trouvera jamais d'autre époux que nous deux et on s'aime beaucoup. Voilà.
C'est émouvant.
Il y a des dispenses aussi de pauvreté quand des dispenses d'âge, en fait, plus exactement, pour que des jeunes gens puissent se marier avant l'âge requis. Donc au 19e, c'était 15 ans pour les filles, 18 ans pour les garçons. Mais parfois, le garçon avait courtisé d'un petit peu trop près une jeune fille qui était enceinte, et les parents de la jeune fille demandaient à ce que le mariage ait lieu, alors que le garçon n'avait pas encore atteint 18 ans. Donc une dispense pouvait être demandée. Et dans la dispense, on trouve toute l'histoire racontée. C'est absolument extraordinaire. Et puis parfois, une famille trop pauvre, une veuve, une femme agricultrice par exemple, se retrouve veuve, ne peut pas cultiver elle-même les champs et n'a pas d'autre solution, explique-t-elle dans les dispenses, donc on trouve tout ça raconté, que de marier sa fille qui a 14 ans et demi avec quelqu'un qui peut cultiver les champs.
Vous êtes passionnante, Marie-Odile Manec, c'est toujours un bonheur de vous avoir dans Mille Papillons. Et vous publiez photos et objets des mariages d'hier, les trouver, les identifier, les comprendre. Cet excellent livre avec des photos, justement, ça tombe bien, et plein de bons conseils, ça c'est votre touche à vous, Marie-Odile. C'est aux éditions Archives et Culture. À bientôt.
À bientôt.
Et dans un instant, les aventures du petit Nicolas.
Minute Papillon, le magazine joyeux de la culture sur France Bleu. Toute la semaine, 14h-15h.